VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 14h à Niamey, bienvenue à notre journal. Au Cameroun, retour au calme dans la ville de Moutenguéné, située en zone anglophone, après une nuit agitée hier, nous dit notre correspondant Jules-Emmanuel Ntap. Les jeunes de Moutenguéné ont pris la rue pour se faire justice après la mort d'un jeune présumé délinquant abattu par la police. Les manifestants ont attaqué l'unité de police en question et brûlé une partie du lycée bilingue après l'avoir saccagé. La police anti-émeute est intervenue pour ramener l'ordre. Le dispositif sécurité reste visible aux endroits stratégiques. Moutenguéné abrite le plus grand centre d'instruction de la police au Cameroun. C'est la première fois que la ville est secouée par des remous sociaux depuis le début de la contestation dans les deux régions anglophones du Cameroun. Les anglophones s'estiment marginalisés. Les leaders de leur mouvement de contestation sont actuellement en prison et jugés pour terrorisme. Au Gabon, soutien sans réserve de l'ancien candidat à la présidence Jean Ping à la grève des enseignants ainsi qu'aux marches des lycéens dispersés lundi par la police. Les détails avec John Lindon.
Le principal syndicat d'enseignants a appelé tous ses membres à arrêter le travail en réponse aux sanctions annoncées mardi par le gouvernement contre 807 enseignants grévistes qui allaient être privés de soldes. Jean Ping soutient sans réserve les élèves ainsi que leurs manifestations, a écrit dans un communiqué l'opposant qui s'est autoproclamé président élu. Ce dernier condamne la violence policière exercée lundi contre des lycéens. À Libreville, Port-Gentil, Oyem et Lambaréné, des lycéens ont marché pour demander le paiement des bourses et la reprise normale des cours, dont la fin du conflit entre l'État et les syndicats d'enseignants en grève depuis le 31 octobre. Pour le porte-parole du gouvernement, Alain-Claude Biliwinzi, la marche a été empêchée parce qu'il n'y avait pas eu de demande d'autorisation.
En RDC, la coalition des Congolais pour la transition, la CCT, appelle à la tenue des États généraux de la nation face au blocage dans la mise en application de l'accord du 31 décembre 2016. Les explications d'Emery Kalouira, président de la CCT.
Ni le dialogue facilité par l'Union africaine, ni celui facilité récemment par l'Église catholique, aucun de ces travaux n'a obtenu l'onction populaire des Congolais, car ils avaient pour seul but de violer la Constitution, de maintenir au pouvoir un homme qui n'a aucun bilan, et puis d'essuyer l'image du Congo au niveau national et international. C'est pour ça aujourd'hui, nous disons, il est temps que nous ne puissions plus regarder ailleurs pendant que le Congo est à côté de l'implosion. Et à toute la communauté internationale qui veut visiblement accompagner le Congo à sortir de cette crise, il nous faut comprendre que M. Kabila constitue le problème vital pour le Congo et pour la paix nationale. Donc ici, ce que nous demandons, c'est les états généraux de la nation pour sortir avec les institutions intérimaires, parce que M. Kabila, en réalité, il n'a aucun pouvoir ni de nommer ni de révoquer. M. Kabila, c'est un ancien président et tous ceux qui veulent chercher la solution avec lui, ils sont tout simplement en train d'amplifier le problème.
Emery Kalouira, président de la coalition des Congolais pour la transition, il était joint à Bruxelles.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Niger, une patrouille du détachement de l'unité antiterroriste basée à Wallam dans le sud-est du pays, attaquée mercredi, 11 soldats auraient été tués et plusieurs personnes sont toujours portées disparues. Les attaquants ont volé du matériel, dont des véhicules, avant de prendre le large. Toujours en Afrique de l'Ouest, dans son rapport publié mercredi, Amnesty International fait état concernant le Mali de violations des droits de l'homme commises par les groupes armés, les forces armées nationales, la force Barkhane et les casques bleus. Notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré, nous en dit plus.
Les rapports d'Amnesty International offrent l'analyse sur la situation des droits humains dans le monde, avec notamment des informations détaillées sur 159 pays, des résumés régionaux. Les rapports parlent aussi des exactions commises au Mali. Salif Fofana, directeur exécutif par intérim de Amnesty International Mali.
Les cas du Mali sont particulièrement relatifs surtout à les atteintes aux droits humains faites par les groupes armés. Vous avez également la restriction de la liberté d'expression. Vous avez également également droit à l'éducation, vous avez également l'impunité qui est là encore, donc est devenue une culture. Vous avez encore également le niveau de vie très insuffisant et le regain de la sécurité qui est là aujourd'hui.
Le document présenté à la presse reconnaît certains efforts consentis par les autorités maliennes dans le cadre de la promotion des droits de l'homme. El Béchir Singaré, chargé des affaires juridiques à Amnesty International Mali.
Pour ce qui concerne le Mali, bon, il y a la commission justice vérité qui tarde à être opérationnelle, mais quand même déjà qui s'est déployée pour être tout près des populations victimes, les entendre, recueillir des informations. Ça, c'est déjà quelque chose. Il y a la loi aussi qui a été prise en faveur du genre et qui a permis aujourd'hui l'augmentation substantielle du nombre d'élus femmes, plus de 2800. Ça, c'est déjà quelque chose, un progrès.
Les responsables d'Amnesty International Mali se réjouissent de l'application de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale.
Il y a l'effort que le gouvernement est en train de faire pour mettre en œuvre les accords d'Alger, et malgré que cette bonne foi du gouvernement est souvent entravée par les tergiversations de certains acteurs de ces groupes armés.
Certains protagonistes de la crise malienne ne sont pas d'accord avec cette lecture de la situation, car il y a un blocage dans la mise en œuvre des autorités intérimaires. Abaye Ag Mohamed, secrétaire général du Congrès pour la justice dans l'Azawad.
Il y a un vrai malaise et nous allons tout droit au mur à cause de la désignation non consensuelle des autorités intérimaires dans les régions. L'État du Mali a une responsabilité globale d'ensemble pour ramener la paix, la stabilité au Mali. Nous estimons que l'État malien peut beaucoup. Donc, il faut lire clairement les préoccupations des communautés, les prendre en compte. On ne doit pas être prisonnier d'un accord sous couvert de la légalité, etc. On peut modifier cet accord. Et l'État malien est responsable en premier lieu de cet accord.
Dans ce rapport annuel 2016-2017, il est écrit « Un monde dans lequel les dirigeants politiques dénigrent et sacrifient encore et encore les droits humains est un monde dangereux ». Fin de citation. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Crise en Libye, l'unification des gouvernements rivaux libyens est la seule voie possible pour la paix en Libye, déclare le chef du commandement militaire des États-Unis pour l'Afrique, l'Africom. Le général Thomas Waldhauser a participé à la récente conférence sur la sécurité à Munich, en Allemagne, avant le lancement de l'opération Flintlock, un exercice militaire mené conjointement avec 7 pays africains. Les détails avec Jacques Aristide.
Le commandement américain pour l'Afrique est en train de nouer des partenariats dans la région du Sahel afin de lutter contre le terrorisme dans le cadre de l'opération Flintlock. Le Nigeria bénéficie de l'aide américaine dans le domaine du renseignement pour combattre Boko Haram. Pour le général nigérian Babagana Mungunu, un tel regroupement des réseaux terroristes requiert la coopération internationale dans la lutte antiterroriste.
The uprising in Libya and the eventual capitulation.
La révolution en Libye et la capitulation du gouvernement de Kadhafi ont abouti à un trafic d'armes et d'êtres humains vers le sud. Le Nigeria a été le lieu le plus visé en Afrique subsaharienne.
Des soldats nigérians combattant Boko Haram ont été accusés d'abus par l'ONG Amnesty International. Pour le général Waldhauser, les militaires américains prennent de telles allégations au sérieux, surtout quand elles touchent leurs partenaires.
Nous comprenons l'exigence de l'éthique sur le champ de bataille. Cela fait partie de notre formation. Il y a aussi des aspects juridiques, des sujets sur lesquels nous mettons l'accent dans nos discussions avec les dirigeants.
L'opération Flintlock implique quand plus de 2000 soldats de 20 pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique du Nord démarrent bientôt et va durer 3 semaines.
Et pour terminer, au Burkina Faso, le 25e Festival panafricain du cinéma de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, la grande fête du 7e art africain, s'ouvre samedi avec en toile de fond des inquiétudes sur la sécurité. Anne Albertson.
Quelques 164 films de tout format sont en compétition, dont 20 longs-métrages pour la récompense suprême, l'étalon d'or de Yenanga. Une cinquantaine de films seront aussi présentés hors compétition. En dépit de la menace djihadiste, les autorités burkinabées ont maintenu l'événement, une des rares manifestations qui contribue au rayonnement mondial de ce pays sahélien très pauvre. Le gouvernement a assuré qu'un effort particulier était fait sur la sécurité, sans vouloir divulguer les effectifs de forces de l'ordre qui seront déployés. Le budget de l'édition 2017 du FESPACO s'élève à 1,2 milliard de francs CFA, financé par l'État. Le réalisateur et dirigeant du 7e art marocain, Noureddine Sahil, présidera le jury dans lequel siégeront de grands noms du cinéma et de la littérature d'Afrique et de la diaspora.
Merci Annette Bertson. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.